Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'universel en plein désarroi. C'est l'essai qui entend lutter contre une certaine bien-pensance de gauche, contre la perte des idéaux progressistes, liberté, égalité, progrès, contre l'importation des théories américaines de genre, de race et de classe dans le débat français. Dans un coupable presque parfait qui paraît chez Grasset, l'essayiste Pascal Bruckner, nouveau juré du Goncourt par ailleurs, dénonce la montée en puissance des discours néo-féministes et décoloniaux et la construction d'un bouc émissaire, l'achat d'une époque contre le mâle blanc hétérosexuel. Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour.
Ce livre est parti d'une matinale de France Culture, à nous la faute. France Culture qui diffuserait une idéologie parfois un peu toxique. Il semblerait donc, ou il semblait hein, normal pour nous de vous donner la parole aujourd'hui, puisque cet entretien, ces mots qui avaient été prononcés vous ont fait réagir. Vieux mâle occidental blanc. En entendant ces mots-là dans la bouche d'un chroniqueur, vous vous êtes visiblement senti attaqué, menacé?
Non, je me suis senti comme ensemble d'un symptôme plus général. Alors d'abord, le projet du livre était antérieur à cette remarque qui était faite à propos de mes critiques sur Greta Thunberg, et d'autres étaient visés aussi. Il y avait Michel Onfray et quelques autres. Mais ça n'est pas grave. Mais ce que je trouvais intéressant...
Et ce sont, pardon, des questions que vous travaillez depuis longtemps
oui,
aussi, hein,
que même depuis
une quarantaine d'années.
Ouais,
voilà, le sanglot de l'homme blanc, la tentation de l'innocence, voilà. La tyrannie de la pénitence.
Voilà, en disant cela, évidemment, j'aggrave mon cas, pour ainsi dire. Mais non, ce que je trouvais intéressant, c'est que on insiste sur à la fois le genre et la couleur de peau à propos d'une opinion, alors qu'en général, le monde des idées est un monde qui transcende les frontières et les idéologies, les origines. Et là, tout d'un coup, j'étais en quelque sorte renvoyé donc à tout cela, et je trouvais ça étonnant. Mais ça fait beaucoup d'années que je remarque à quel point les questions raciales directement importées des États-Unis reviennent dans le discours politique français à gauche, et je l'attribue pour ma part à deux phénomènes. D'abord, l'Amérique et par excellence sa civilisation du déguisement, c'est-à-dire qu'au fond tout le monde aujourd'hui veut être américain, y compris les adversaires des États-Unis. Donc c'est une civilisation qui s'exporte beaucoup mieux qu'aucune autre. Et la deuxième chose, c'est plus important, c'est le désarroi de la gauche. C'est-à-dire que les gauches européennes, après la chute du communisme, sont en pleine débandade. La social-démocratie est aux abois. Et on est tenté d'importer des États-Unis comme parole d'évangile, le triple credo de la race, de l'identité et du genre, en se disant que ça va être des moyens d'améliorer la société, de se tenir aux côtés des opprimés. Et je trouve pour ma part que c'est l'usage qu'on en fait défie les grands projets qu'ont été le féminisme, l'anticolonialisme et l'antiracisme. Puisqu'au fond, le féminisme avait pour but de réconcilier les hommes et les femmes en les faisant accéder à une humanité commune. L'antiracisme avait comme volonté de combattre une idéologie funeste qui avait triomphé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était contemporaine de l'arrivée de nombreux immigrés en Europe. Quant à l'anticolonialisme, il a été pour ses porte-paroles les plus talentueux, comme Frantz Fanon ou Édouard Saïd, il n'était pas du tout un projet tribal, il était au contraire un projet universel, émancipé à la fois le colonisé et le colonisateur. Et je ne retrouve aucun de ces trois projets dans l'idéologie actuelle de la race, de l'identité et du genre.
Voilà, ce serait le nouveau clivage ou les nouveaux clivages entre les nouveaux progressistes et les réactionnaires. La lutte des classes aurait été remplacée par la lutte des races, à vous lire Pascal Bruckner. Vous citez beaucoup hein, James Baldwin dans ce livre. Hein. Vous le mettez même en exergue de cet essai avec cette citation. La glorification d'une race et le dénigrement corollaire d'une autre ou d'autres, a toujours été et sera toujours une recette de meurtre. Quiconque avilie les autres s'avilie soi-même. Donc, on imagine que vous n'allez pas vous prêter à cet exercice qui consiste à avilier les autres. C'est ce que vous dénoncez aussi.
Je cite beaucoup de James Baldwin, d'abord parce que j'ai rencontré quelques années avant sa mort à Paris, on a passé une après-midi ensemble et que j'ai été très impressionné par cet homme et par son éloge de la France, alors que moi j'avais que tendance spontanément, comme tout Français, à dénigrer mon pays, à lui trouver tous les torts. Lui, au contraire, avait acquis un sens de la nuance. Et puis je l'ai relu pour ce livre, parce que ces ouvrages ont été réédités dans plusieurs maisons d'édition, et c'est là que je me suis aperçu à quel point il était l'héritier d'une tradition afro-américaine d'exil vers la France, et qui a commencé entre les deux guerres. Il y a évidemment Josephine Baker, il y a aussi Richard Wright, il y a l'auteur de Chester Himes, l'auteur de romans policiers, et aujourd'hui cette tradition continue. Très curieusement, puisque je connais bien Thomas William Chatterton, qui est donc ce jeune Américain, enfin jeune, il a 40 ans, qui vit à Paris, qui va s'installer et qui publie d'ailleurs un livre en janvier prochain qui s'appelle...
Alors, je peux pas vous aider, je connais
mais,
pas.
Oui, qui s'appelle Noir et Blanc, voilà. Et donc, puisque lui-même est métisse. Et donc, tous ces gens, tous ces Afro-Américains, qui ont souffert du racisme aux États-Unis, souffrent également de la réduction à la couleur de peau qui est la règle en Amérique. Et ils trouvent en France un havre de paix dans l'idée républicaine qu'ils n'ont pas chez eux. Et je trouve très intéressant de laisser la parole à ces personnes. Et d'ailleurs, j'ai vu que le journal Le Monde avait fait 4 pages, M. Le Monde a fait 4 pages, sur tous ces écrivains afro-américains qui complexifient le débat et ne veulent pas le réduire à une opposition blanc-noir.
Nous leur donnons aussi régulièrement la parole. Ici, à France Culture et autour de cette grande table, avec notamment, dernière en date, le très bon livre de Colson Whitehead, dont on vous a parlé ici. Mais revenons-en à James Baldwin. James Baldwin, dont le blues de l'homme blanc vient d'être réédité et traduit, en tout cas en France. Est-ce qu'il y a pour vous quand même aussi une forme de blues, de mélancolie, ou est-ce que vous diriez que c'est plutôt une sorte d'indignation intellectuelle par rapport à ce nouveau clivage, une peur, une colère? Comment vous traduisez-vous votre ressenti?
Alors vous avez raison, oui, il y a sans doute une mélancolie, c'est-à-dire que je ne reconnais plus la gauche que j'ai aimée, j'ai mal à ma gauche, on pourrait dire cela, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, puisque on voit bien qu'aujourd'hui dans le pays, en France comme en Europe, la gauche est mal en point. J'écoutais hier une émission où quelqu'un disait la France est massivement passée à droite. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'elle est passée à droite par défaut de trouver à gauche des appuis, des idées, des soutiens qui leur aient permis de continuer à voter pour ce camp-là. Oui, j'ai la nostalgie d'un temps où d'abord les gens n'existaient pas. Il y a une double nostalgie. Aujourd'hui, on se demande spontanément si on est juif, chrétien, musulman, athée. À mon époque, ça n'existait pas. Les gens étaient des noms, et même presque des prénoms, et on se moquait complètement de savoir s'ils croyaient ou non en Dieu. Et puis aujourd'hui, là aussi, cette réduction à la couleur de peau me paraît terriblement, terriblement réducteur, si j'ose dire, pour redoubler le mot. Et je n'ai pas le sentiment qu'on s'élance vers des chemins d'émancipation, mais au contraire des chemins de rétrécissement. Si donc votre opinion ne dépend que de votre couleur de peau, alors il n'y a plus de débat possible. Chacun reste dans sa tribu et on se parle de part et d'autre d'un fleuve qui est quasiment infranchissable.
Pas que, et vous le savez très bien, dans la lignée d'autres penseurs, en tout cas français, ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous déplorez, c'est une forme d'américanisation de la pensée et du débat d'idées en France, l'importation ou la transposition de ces débats qui seraient peut-être pour vous un contresens. On a beaucoup évoquer cette notion, ce concept de privilège blanc qui aurait débarqué, selon vous aussi, dans le langage courant en France, dans le sillon d'affaires au retentissement mondial, comme celle de la mort, de l'assassinat de George Floyd. Une problématique qui reste pour vous purement nord-américaine, qui n'a pas lieu d'être ici. Ça touche pas tout le monde occidental, ces questions?
Alors, il faut serrer. Aux États-Unis, il est vrai que l'ancienne majorité blanche est en train de devenir une minorité numériquement, même si très probablement le pouvoir blanc va continuer. Ça n'est pas. On dit qu'il y aura aux États-Unis 45% de citoyens blancs. Mais ce qui est intéressant,
c'est à quelle échéance ?
Comment ?
À quelle échéance ?
En 2050, c'est à peu près les chiffres. Je regardais un documentaire sur le Ku Klux Klan avant-hier, et c'est ce qui était marqué. Mais le problème, c'est que quand même, la singularité de la Révolution française, ça a été de parler au nom de l'humanité tout entière. Alors, on dénonce cet universalisme, on dénonce cette abstraction, on prétend qu'il a permis d'étouffer la voix des minorités écrasées ou opprimées, et c'est sans doute vrai, mais je plaide pour ma part pour un universalisme incarné, non pas pour un universalisme abstrait qui consacrerait le triomphe d'une majorité sur une autre. Alors, quand on parle de privilèges blancs, de quoi parle-t-on en France? Ben, d'abord, il y a une réalité démographique simple, c'est qu'en Europe, jusqu'à Vladivostok, on est majoritairement de peau claire, avec des nuances très importantes entre les Suédois, les Siciliens, les Andalous. C'est un fait biologique, on ne peut pas le supprimer. Donc parler de privilèges quand on est une majorité écrasante, ça n'a pas beaucoup de sens. Après, il faut affiner selon la classe sociale, selon la position de pouvoir, selon le rôle qu'on joue dans la société. Et c'est pour ça que le privilège blanc a été critiqué une première fois en France par une porte-parole du Parti Socialiste dans Le Monde, je crois que c'était au mois de mai, qui a dit que c'était une notion qui n'avait aucun sens et qu'on n'avait pas le droit, et ça je crois que c'est très important, et ça c'est moi qui le rajoute, on n'a pas le droit de culpabiliser les gens pour ce qu'ils sont, à leur naissance. On doit les attaquer pour ce qu'ils font ou ne font pas, mais parler de privilèges blancs, c'est réveiller l'idée d'un péché originel. C'est-à-dire que tout enfant qui naît en France, en Allemagne ou ailleurs serait en quelque sorte coupable d'exister. Et là, malheureusement, on retrouve les vieilles idéologies des années 30.
Vous le dites aussi, l'Europe et l'Occident ont une couleur jusqu'ici. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir si derrière cette couleur, il y a des systèmes de domination. Vous avez-vous dialogué dans Le Point, Pascal Bruckner, avec Lilian Thuram? Lilian Thuram, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé La pensée blanche. Il était venu en parler, justement, au micro d'Emmanuel Laurentin dans Le Temps du débat sur France Culture. On l'écoute.
Tout au long du livre, j'essaie d'expliquer que ces groupes ont été constitués par une minorité de gens, par des politiques et des financiers, pour pouvoir exploiter la majorité des gens. La pensée blanche est une construction. Vous savez très bien qu'en psychologie sociale, à partir du moment où on crée des groupes, on va défendre son groupe. Et on a mis en place des systèmes au nom des blancs. Mais comme je rappelle dans le livre, l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. C'est un système économique mis en place par une minorité de gens. J'explique que la grande majorité des gens, qui sont paysans, ouvriers, ne participent pas à ça. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Le racisme a toujours été une construction politique. Toujours. Lorsque je parle de pensée blanche, je parle d'une pensée qui nous a enfermés tous, toutes les personnes de toutes les couleurs.
Voilà, cette pensée blanche qui nous enferme. Le racisme est une construction politique, dit Lilian Thuram, qui nous enferme tous. Vous l'entendez quand il dit ça, Pascal Bruckner?
Alors d'abord, j'apporterai quelques nuances. Je pense que le racisme est la chose du monde à mieux partager entre les individus. Tous les groupes veulent spontanément exclure l'étranger, l'allogène, celui qui ne leur ressemble pas. Ce qui caractérise le racisme occidental, c'est qu'au XIXe siècle, il a pris une tonalité scientifique, c'est-à-dire qu'il s'est, il a prétendu se baser sur des données immuables, caractéristiques physiques, et ça, tout cela a très bien éclaté pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des instituts d'études scientifiques pour distinguer les Juifs des Aryens.
Et c'était absolument terrifiant.
Ce qui est absolument terrifiant. Mais l'Occident, et je pense que c'est une caractéristique de son histoire, il a inventé le pire, il a aussi inventé les remèdes à la barbarie. Et je pense que de la même façon que l'Occident n'a pas inventé l'esclavage, il l'a pratiqué, mais l'abolition, il a aussi inventé l'antiracisme. Et je pense que, justement, pour combattre le racisme, il ne faut pas commencer, me semble-t-il, par parler d'une pensée blanche. Il y a une pensée coloniale. Thuram a raison, mais il y a aussi une pensée anticoloniale. Il y a une pensée impérialiste qui n'est en rien le privilège de ceux qu'on appelle les Européens.
Mais la pensée anticoloniale n'a pas été la grande gagnante de l'histoire pendant très très longtemps. Il est normal aussi qu'aujourd'hui elle s'analyse, se raconte, se décortique.
Absolument, absolument. Mais elle accompagne le processus colonial depuis les origines, depuis Bartolomé de las Casas, jusqu'à André Gide, jusqu'à Aimé Césaire, jusqu'à Clémenceau, qui a été quand même comme le grand adversaire de l'impérialisme français dans son opposition à Jules Ferry. Donc il faut aussi reconnaître un certain pluralisme dans la pensée coloniale. Mais moi, je l'appelle pensée coloniale. Je ne l'appelle pas pensée blanche. Je ne vois pas comment une pensée peut sortir d'une couleur. C'est ça. Je ne parlerai jamais de pensée noire, je parlerai de pensée africaine au pluriel. Et donc, il faut aussi un peu complexifier le problème. Sinon, on se tend à un piège dans lequel on risque de retomber soi-même. Et c'est évidemment ce que je reproche à Thuram. On a fait un dialogue dans Le Point où on s'explique là-dessus. Et donc, c'est pourquoi je ne parle pas ni de pensée blanche.
Mais de pensée occidentale, comme vous parlez de pensée noire.
Je parle d'idéologie française à la rigueur, on peut penser. Mais encore une fois, les pensées sont complexes. Et aujourd'hui, nous sommes sortis de la colonisation.
Vous êtes d'accord l'un et l'autre dans cet échange qu'il faut lutter contre le racisme aujourd'hui. Mais comment vous faites-vous, Pascal Bruckner, pour porter haut l'idée d'une humanité commune, ce que vous plaidez de vos voeux à travers cette défense de l'universalisme, en prenant quand même ouvertement le parti d'un camp plus qu'un autre, en renversant des discours que vous jugez, vous, clivants et victimaires, pour défendre un autre discours qui est à son tour clivant et victimaire pour cette revanche de l'homme blanc contre à la fois les furies féministes d'un côté, contre ce que serait aujourd'hui devenu cette victimisation noire aussi en Occident.
Ah, mais moi, je ne prône pas la revanche de l'homme blanc. Je crois que j'ai été clair et je n'ai jamais été dans cette idéologie. Je dénonce la posture du bouc émissaire, c'est-à-dire que je trouve éminemment simplificateur qu'un discours néo-féministe, je dis bien un discours parce qu'il y en a d'autres, un discours antiraciste ou un discours décolonial désigne l'homme blanc et puis pour les afro-féministes la femme blanche qui n'est pas mieux lotie que l'homme comme étant en quelque sorte la source de tous les malheurs de l'univers. Et la question que je me pose, c'est quel est le but du néo-féminisme aujourd'hui, par exemple? Est-ce que c'est la réconciliation entre les hommes et les femmes à partir du moment où ils se sont mis sur un pied d'égalité et construisent ensemble un monde commun? Ou est-ce que c'est au contraire l'exclusion? Et il me semble que si on en croit certaines déclarations récentes des féministes les plus outrancières, c'est à terme la volonté, c'est l'exclusion, c'est la séparation. Et c'est là où le modèle américain me fait peur, parce que je connais bien l'Amérique, j'y ai de la famille, une partie de ma famille réside là-bas, et on voit bien que les relations hommes-femmes sont en quelque sorte médiées par un tiers, qui est la justice, qui est l'avocat. L'avocat est le véritable tiers adultérin désormais dans les couples aux États-Unis, et j'ai le sentiment que ce vers quoi nous allons, c'est vers deux humanités séparées qui se parleront par l'intermédiaire de leurs avocats, qui noueront des accords provisoires, mais entre lesquels aucune espèce de conciliation n'est possible. Et moi, il me semble que la caractéristique de la France, c'est justement qu'elle a construit une culture de la conversation entre les sexes qui est très ancienne, bien plus ancienne que les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a une grande auteure américaine pour laquelle j'ai une certaine admiration, c'est Edith Wharton. Edith Wharton vient en France en 1918 et elle dit qu'elle est stupéfaite par la liberté d'allure des femmes françaises qui occupent l'espace public, qui ont travaillé pendant la guerre, qui ont en quelque sorte repris des postes abandonnés par les hommes qui étaient au front. Et elle dit, cela ne se voit nulle part aux États-Unis. Ici, les femmes ont une certaine tenue égalitaire que n'ont pas les Américaines. Et je pense que nous devons, autant que possible, respecter cet esprit d'égalité qui est à la base du féminisme français, et d'ailleurs que reprenaient les grandes féministes Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter, Yvette Roudy et beaucoup d'autres, dont je dois dire, alors là, je suis d'accord avec vous, je suis nostalgique parce que c'était des discours qui étaient des discours construits et non pas simplement des discours de dénonciation.
Mais toutes ces grandes féministes se sont déjà battues à l'époque pour une libération des corps, mais aussi une libération surtout de la parole. C'est ce qui s'est passé avec ce mouvement MeToo. Et vous êtes quand même un des rares à ne pas accueillir positivement ce mouvement, à n'en voir que les travers, à ne pas saluer cette libération-là, cette possibilité aujourd'hui pour des femmes qui jusqu'ici ne pouvaient pas parler, dont la parole était verrouillée, pas attendue, qui ont été victimes d'agressions, de viols, d'aujourd'hui pouvoir oser le dire. Ça, c'est quand même essentiel. Et ça, toutes les féministes le soutiennent quand même aujourd'hui.
Alors, Alors d'abord, je salue MeToo, je l'ai écrit explicitement, je salue, je dis qu'il n'est pas interdit, quelques années après, d'en voir les limites. Là aussi, beaucoup de féministes ont attaqué MeToo. Margaret Atwood, la première, dit MeToo c'est très bien, mais il faut quand même savoir qu'il y a des femmes qui peuvent mentir. Il y a eu au mois de mars, je crois, dans Le Monde, la pétition de 144 avocates pénalistes disant qu'on ne pouvait pas simplifier la question des agressions à un simple acte d'accusation et qu'il fallait respecter les procédures de l'état de droit et se demander si toute accusation est en soi légitime. Est-ce que l'on doit croire les femmes sur parole dès lors qu'elles pointent un doigt vengeur sur les hommes?
Et ces mêmes pénalistes soulignent, il faut juste être complet sur leurs paroles, elles soulignent aussi les faiblesses et les dysfonctionnements de l'institution.
Elles pointent
le risque des outrances, des dérives.
Absolument.
Elles rappellent aussi qu'on a un problème en France.
Elles font les deux, mais elles défendent aussi l'idée d'un état de droit qui ne peut pas se résumer simplement un geste de lynchage. Et malheureusement, autant je suis d'accord pour que les femmes prennent la parole et dénoncent leurs violeurs ou leurs agresseurs, autant je trouve que lorsque l'on réduit cette dénonciation à un acte de lynchage public à propos d'individus dont on n'a jamais entendu parler, on court un risque. Alors regardez par exemple Sandra Müller dans l'affaire de Balance ton porc, avec Eric, je me souviens plus exactement du nom de son agresseur présumé, elle a été condamnée par une cour de justice pour dénonciation calomnieuse. Il avait eu des propos très malvenus avec elle, et elle a ruiné sa vie. On pourrait citer aussi les cas de Philippe Cobert, on pourrait citer les cas aussi d'Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf a récemment été innocenté d'une accusation de pédophilie qui lui avait été lancée par une jeune fille de 14 ans. Il a dit...
Et on pourrait citer tous les cas d'agresseurs ou de violeurs qui n'ont pas été condamnés. Alors, et tous les cas de paroles de femmes qui n'ont pas été entendues. Mais vous savez très bien que c'est un vaste débat.
Là, vous posez une question intéressante.
Vous donnez des noms, donc à partir de là, allons-y.
Vous posez une question intéressante. Est-ce que la justice doit être de l'ordre de la vengeance ou est-ce qu'elle doit être de l'ordre de l'équité? Je pense que la justice doit éviter un double piège, c'est de laisser un crime impuni, mais de ne pas non plus punir un innocent. Parce qu'à ce moment-là, on se met à douter de l'institution elle-même. Vous voyez que c'est un équilibre très, très délicat dans lequel ces pénalistes dont je parlais tout à l'heure essayaient de tenir.
On évoquait le cas des États-Unis. J'aimerais juste revenir sur ce point, sur ces mouvements et contre-mouvements avant-hier, autour de la grande table. Joyce Carol Oates parlait de ce mouvement de ressac qui avait lieu aujourd'hui après Black Lives Matter, où dans ce sillon-là est né un contre-mouvement, White Lives Matter. Pauvre petit blanc, ça c'est le terme qu'employait autour de cette grande table et c'est celui qu'elle a donné pour le titre de son essai, l'historienne américaine Sylvie Laurent. Elle était lundi dernier l'invitée de la grande table, je vous propose de l'écouter.
Pauvre petit blanc, ça n'est pas un personnage qui existe. D'une part, ceux qui sont les plus pauvres aux États-Unis et qui appartiennent à la classe laborieuse sont en grande partie non blancs. Et penser qu'il n'existe de classe ouvrière que blanche, c'est déjà une réduction du périmètre de la réflexion. Et par ailleurs, ceux qui se disent dans une forme d'anxiété économique, morale et culturelle ne sont pas en réalité ceux qui sont les plus pauvres sur le strict plan matériel. Et qu'en réalité, l'angoisse d'être dépossédé de ce que l'on a, c'est quelque chose qui anime toutes les catégories sociales de l'Amérique blanche et que les plus aisés, les possédants, les chrétiens, les hommes, quelle que soit la classe sociale, nourrissent ce sentiment d'être désavantagés, d'être brimés, d'être dépossédés. Et ce sont eux les pauvres petits blancs, ils ne sont pas pauvres et ils le sont d'ailleurs bien moins que les autres qui ne sont pas blancs. Le vote a toujours une couleur, la politique a toujours une couleur, aux États-Unis tout a une couleur. The White Lives Matter, dont je parle en effet dans le livre, c'est le nouveau slogan de la droite extrême qui se normalise aux États-Unis. Et sans surprise, le président Trump lui-même a régulièrement retweeté des messages sur les vies blanches comptent, comme si vie blanche, vie noire, tout ça finalement c'était très équivalent, comme si l'injustice n'avait pas une couleur. Donc la réponse c'est oui, le vote a une couleur forcément, mais l'injustice aussi en a une, et il serait bien de ne pas l'oublier.
Pascal Bruckner, l'injustice n'a pas de couleur?
Ah oui, voilà pourquoi je ne veux pas du modèle américain. Parce que le jour où en France on tombera dans ce genre de classification, je pense que ce sera la fin des haricots pour nous. C'est-à-dire l'idéal républicain sera piétiné. Si j'étais américain, si j'étais Joe Biden, je ne recommencerai pas l'erreur d'Hillary Clinton. Vous savez que Hillary Clinton avait dit des électeurs de Trump qu'on pouvait tous les mettre dans le panier des lamentables, des pitoyables. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'effectivement, une partie de la classe ouvrière blanche, souffre de désespoir social, de la crise des opioïdes, d'obésité. On les voit quand on va dans les campagnes, on les voit dans les villes, s'est sentie abandonnée. Elle a pratiqué ce qu'un essayiste afro-américain appelait le white lash et le retour de bâton blanc. Ils ont voté pour Donald Trump qui seul les écoutait. Et je pense que le grand défi de Biden, j'imagine qu'il l'a compris, c'est justement de reconquérir cet électorat pour qu'il n'aille pas donner ses voix à Donald Trump. Une nation doit être faite, ça c'est à la fois le message de Martin Luther King et c'est le message d'Obama. Une nation doit être faite de tous ses membres. Et Martin Luther King, dans son grand discours « Had a Dream », disait « On ne doit pas être jugé sur notre couleur de peau, mais sur notre caractère ». Et Obama a repris le même terme et c'est pour ça qu'il a été élu président. Donc passons par-dessus les différences raciales qui sont, à mon avis, ce qui peut diviser le plus les hommes pour de mauvaises raisons.
Alors, vous dénoncez dans ce livre le triomphe du manichéen, mais pourtant vous exagérez le trait, c'est peut-être un principe rhétorique pour surligner.
Non, je cite simplement les gens. Alors très souvent, des auteurs sont choqués d'être cités et de voir leur pensée réduite à un aphorisme.
Oui, mais vous le dites d'ailleurs, les réseaux qui tuent sans sommation, et il faut que les essais, eux, permettent à la pensée de se développer, c'est ce que vous faites. Dans ce livre, dans cet essai Incoupable presque parfait, Pascal Bruckner qui paraît chez Grasset. Merci d'être venu
nous
en parler. France Culture, il est 13h23. Et les débats vont continuer demain toute la journée sur l'antenne de France Culture avec cette journée spéciale. Réseaux sociaux, culture, médias, que faisons-nous du débat public? Pour l'heure, comme un jeudi sur deux, c'est le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier. Bonjour, avec vous aujourd'hui, le directeur de la rédaction Arnaud Bousquet.
Arnaud Bousquet, bonjour.
Bonjour.
On commence avec une question un peu vive. Comment les journalistes peuvent-ils parler d'armée séparatiste en parlant de l'armée nationale d'Arménie et celle de la République du Haut-Karabakh? Cette notion de séparatisme me semble reléguer le combat des Arméniens du Haut-Karabakh à un caprice de provinciaux gâtés. Et l'utilisation systématique du terme séparatisme sur France Culture me semble correspondre à un discours politiquement correct, ne voulant fâcher personne, mais n'expliquant rien aux auditeurs. Alors Arnaud Bousquet, quel éclairage pouvez-vous apporter et que répondre à cet auditeur?
Déjà que sur l'intention, et Dieu merci, l'idée n'est sûrement pas pour nous d'adopter une quelconque ligne politiquement correcte. Ça va mieux en le disant, donc merci à cet auditeur de l'avoir suggéré. Et puis lui dire aussi que sur le fond, il a raison. Parce que le mot séparatisme n'est pas celui qu'il convient d'utiliser. Il est même carrément inapproprié puisqu'il pourrait induire une sorte de parallèle un peu ambigu avec la situation dans l'Est de l'Ukraine. Et en effet, l'emploi de l'expression séparatisme, d'une certaine façon et même involontairement, minore le combat des Arméniens du Haut-Karabakh. Pour être plus précis, il faudrait plutôt parler de république autoproclamée. Mais je crois que c'est aussi important de noter que depuis 91 et la disparition de l'Union soviétique, la République du Haut-Karabakh n'est toujours reconnue par aucun des États membres de l'Organisation des Nations Unies.
Mais alors, pourquoi ce terme de république séparatiste a-t-il été employé sur l'antenne de France Culture?
Alors, puisque ça n'est pas, comme je vous l'ai dit, et j'espère que ça rassurera l'auditeur qui vous a écrit, Emmanuel, puisque ça n'est pas pour faire dans le politiquement correct, s'il vous arrive d'entendre ce terme de république séparatiste, c'est peut-être parce que l'agence France Presse, l'AFP, l'utilise dans ses dépêches et que, par facilité, il soit repris tel quel par un présentateur de journal, un chroniqueur, même si j'ai vérifié, il n'a par exemple jamais été employé dans la revue de presse internationale sur France Culture juste après le journal de 7h30. Donc ce n'est évidemment pas une excuse, mais c'est une explication et en aucun cas, un jugement de valeur de notre part.
Alors on poursuit avec un autre message. Le caractère binaire, pour ne pas dire manichéen, de la présentation de ce conflit est construit avec facilité. Je trouve le traitement déséquilibré et trop clairement favorable à la partie arménienne, voire outrancièrement favorable à l'Arménie. Arnaud Bousquet, ce point de vue d'un auditeur vous paraît-il justifié?
C'est l'une des difficultés de la couverture de ce conflit. C'est une difficulté qui est bêtement matérielle, bêtement administrative. C'est un fait. Pour les journalistes occidentaux, il est extrêmement compliqué de se rendre sur place, sur cette zone de guerre. guerre en entrant par l'Azerbaïdjan. C'est la réalité depuis des semaines et encore à l'heure où nous parlons. Notre reporter Claude Brouillot, qui se trouve dans la zone depuis une quinzaine de jours maintenant, n'a pas eu le choix. Pour accéder à ce secteur, il a dû transiter par Erevan, la capitale de l'Arménie, donc depuis Moscou, avion jusqu'à Erevan et ensuite le Haut-Karabakh. Ensuite, là encore, disons les choses honnêtement, mais clairement, même si l'Azerbaïdjan justifie son offensive militaire par la volonté de restaurer son intégrité territoriale mise à mal depuis 1994, selon les informations dont nous disposons actuellement, les aspects les plus avérés des violations des règles internationales viennent plutôt du côté de l'Azerbaïdjan, avec une intervention turque contraire à ces mêmes règles internationales, des bombardements à l'aveugle sur des zones civiles, la présence de miliciens syriens sur place envoyés par Ankara. C'est aussi tout cela que nos reportages et nos analyses font entendre. Une fois que je vous ai dit ça, il nous semble indispensable de faire entendre le point de vue de Bakou. C'est ce que nous faisons, par exemple en diffusant sur France Culture, dans l'un de nos journaux de 18h, un entretien avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France. Et puis, autre exemple, dans sa revue de presse internationale du 29 septembre, Camille Magnard a cité des médias aussi bien arméniens qu'azerbaïdjanais, russes et turcs. Et par ailleurs, j'en viens à mon point de départ, Radio France tente encore, toujours en ce moment, d'envoyer un reporter sur place côté azerbaïdjanais.
Alors justement, très précisément, et là c'est la dernière question, vous serait-il possible de parler davantage de ces événements, demande un auditeur. Alors concrètement, comment la rédaction de France Culture couvre ce conflit?
Donc pour revenir à nos conditions de couverture, Radio France et sa rédaction internationale ont dépêché sur place dès la fin septembre notre correspondant permanent à Moscou, Claude Brouillot, qui est un grand reporter, plus qu'expérimenté. C'était l'un des premiers à rejoindre Kaboul après les attentats du 11 septembre 2001. Claude Brouillot est l'un des seuls journalistes français à avoir pu accéder au Haut-Karabakh. Il a rendu compte depuis la capitale, Stepanakert, des bombardements et de la situation des civils. Alors vous allez me dire, il fait juste son boulot, mais je vous assure qu'il l'accomplit avec beaucoup, beaucoup de courage, dans des conditions effrayante, sans donner de détails et pour avoir personnellement échangé avec lui ces derniers jours, Claude, nommons les choses, prend des risques physiques depuis deux semaines pour nous informer, pour témoigner au plus près de la population. Ces reportages ont été diffusés dans toutes les éditions de France Culture, les matinales, les journaux de midi et demi, de 18h, de 22h. Et puis pour les aspects plus diplomatiques de ce conflit, ils sont évidemment traités par nos correspondants depuis Bruxelles, Istanbul ou Moscou. Alors évidemment, il serait toujours possible de parler davantage du Haut-Karabakh, comme d'ailleurs des autres conflits en cours à travers le monde. Mais je voudrais rappeler que l'antenne de France Culture, l'antenne, c'est-à-dire aussi bien les journaux que les chroniques et les émissions, accorde une place prépondérante, j'allais dire prioritaire, à l'actualité internationale plus que toute autre chaîne de Radio France, que nous sommes présents le plus régulièrement possible sur le suivi de ce conflit depuis le mois de septembre, même depuis le début de l'été, puisque Camille Magnard en avait fait le sujet principal de sa revue de presse internationale le 15 juillet, et nous continuerons bien évidemment de l'être dans les prochaines semaines, et ce, dans les journaux de France Culture, dans la revue de presse, dans les émissions, dans les chroniques, pour ne citer qu'elle, le journal des idées avec Jacques Munier et puis les enjeux internationaux avec Julie Gacon entre 6h30 et 7h. Alors c'est vrai que c'est de bonne heure, mais justement finalement c'est l'occasion rêvée de découvrir la nouvelle application Radio France pour écouter ou podcaster l'ensemble de ces rendez-vous 24 heures sur 24.
Merci Arnaud Bousquet pour ces propos très éclairants, très complets. Je pense que vos auditeurs apprécieront. Merci à vous.
À bientôt.
Merci à vous Emmanuel Davy, un énorme merci surtout à toute l'équipe de la Grande Table pour cette très belle semaine, à la réalisation aujourd'hui Thomas Beau, avec Jean-Frédéric. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h pour En français dans le texte autour de Jean-Luc Lagarce. Demain c'est Lucille Comeau que vous retrouverez pour une Grande Table critique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.